Voilà, comme ça. Oui, ça va, c'est bien. Alors, la caméra passe de l'autre côté.
What is this, Connor?
Easy, old man. She's not hurt?
No, no.
Not wounded, sir.
Che fai, credi?
Ma stato fatto, che fai?
It's been a long time.
Yes, ma'am.
Mi conoscete?
Filumena.
Filumena.
Proprio non mi ricordate.
Che non si fa che fisso? Papa fa che fisso?
Bonjour à toutes et à tous, apprentis et apprenants, déconstruits et reconstruits de tout âge, bonjour et bienvenue dans Cinémascope, le magazine qui ausculte l'actualité du cinéma en Sud-Ardèche. Aujourd'hui, quelques films autour de la manière dont on se construit, dont on construit ou détruit soi et les autres, avec Olivier. Salut Olivier.
Salut Sophie, bonjour tout le monde, construisons-nous.
Oui, René, bonjour René.
Bonjour à tous.
Et par la magie du téléphone, Alexis. Salut Alexis.
Salut.
Et puis aussi celui qui construit les sons de cette émission, Sylvain. Salut Sylvain.
Salut.
On parle donc des films The Brutalist, Apprendre, La Pampa et Dis-moi juste que tu m'aimes. Et puis bah allez-y, on commence par un film hors norme par sa durée, 3h34 je crois, son ambition et semble-t-il aussi parce qu'il raconte. On s'en met un petit son rapide dans l'oreille.
When dogs get sick, they often bite the hand of those who fed them. Until someone mercifully puts them down.
Le héros va-t-il mordre la main de celui qui l'a nourri? C'est ce qu'on entend dans la BO. On sent la tension palpable déjà au son de cette bande-annonce. Alexis, est-ce que tu es aussi dithyrambique qu'une bonne partie de la critique sur ce film, donc The Brutalist de Brady Corbett?
Alors oui, donc j'ai vu le film, donc 3h30 de film, donc c'est quand même plutôt une expérience maintenant cinématographique, même si les films, il y a beaucoup de films qui sont de plus en plus longs en salle de cinéma. Mais voilà, quand on s'assoit dans cette salle, on se dit bon, on s'attend à voir un film assez extraordinaire, parce qu'on se dit voilà, c'est un grand moment de cinéma. Et pour moi, ça a été un des grands moments de cinéma que j'ai eu dans ma jeune cinéphilie, on va dire. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, donc, je voulais parler de The Brutalist, qui a été réalisé par le réalisateur Bradley Corbett. Donc, de quoi ça parle The Brutalist? Donc, on suit Lazo Tost, qui est un architecte hongrois, qui donc fuit l'Europe après la guerre pour tenter sa chance aux États-Unis. Et comme beaucoup d'émigrés, et à l'époque, il rêve de succès, d'une nouvelle vie. Mais il va vite comprendre que le chemin vers la reconnaissance est semé d'embûches, surtout quand un riche industriel lui propose une opportunité qui va changer sa vie. Bradley Corbett, qui lui, en fait, avait déjà fait un film qui s'était fait remarquer, qui s'appelait Vox Lux, propose aujourd'hui, donc avec The Brutalist, un film qui est assez ambitieux, surtout dans sa mise en scène, mais aussi par son format. Comme je disais tout à l'heure, 3h20 de projection avec une intermission, c'est-à-dire il y a une entracte, c'est ça qui est proposé. Et c'est plutôt rare, maintenant ça n'existe plus, parce qu'on ne change plus la bobine parce que le film est trop long. Là c'est 3h30 d'immersion, c'est une petite entracte pour encaisser la première partie et faire partie derrière. Et c'est vrai que ça donne un petit côté immersif d'autant plus. Et c'est vrai que ça a un vrai côté cinéma d'époque. Et visuellement, le film est tourné en Vista Vision, un format qui est utilisé dans les années 50, qui donne vraiment une image d'une profondeur qui est assez incroyable. Je peux parler du fameux Adrien Brody qu'on a vu dans Le Pianiste, qui joue le rôle principal. Il est assez impressionnant dans le film. Donc il incarne Laszlo avec une intensité qui lui a valu le Golden Globe, le BAFTA du meilleur acteur. Et à ses côtés, il y a Pierce et Felicity Jones qui eux aussi livrent aussi de très belles performances qui rendent l'histoire encore plus prenante.
Et sur ce que ça raconte,
oui.
Ah, pardon, je te
oui.
laisse. Ouais. Sur ce que ça raconte de l'Amérique, est-ce que ça te...
Ah ben ça montre bien un petit peu les préjugés qu'il peut y avoir dans ces... Alors on dirait qu'il y a toujours des préjugés à l'heure d'aujourd'hui, mais ça raconte d'autant plus que l'immigration est difficile, hein, que l'image, même si voilà, lui il ressort des camps de réfugiés, on voit bien que l'intégration est très difficile parmi son milieu, et donc en fait il va se battre tout au long de sa vie pour se faire accepter. Et ça parle surtout aussi de ça et de ses avancées de carrière, même si c'est un génie, il fait face à toutes ces relations-là. Voilà. Alors moi, je voulais aussi parler de la petite polémique, vous en ferez ce que vous voulez après l'émission. Mais c'est vrai que pendant ce film-là, en fait, il a été posé question, justement, vu que le film est nommé, le film... a été nommé dans plusieurs catégories, dont le meilleur acteur. Il est posé question parce qu'il y a une petite partie dans le film qui est faite par l'intelligence artificielle, parce qu'en fait, pour améliorer cet accent hongrois qui était difficile à avoir, Adrien Brody, en fait, il a été retouché en post-prod en intelligence artificielle pour faire croire aux spectateurs que ben, l'accent hongrois de l'acteur était beaucoup plus prononcé et faire croire aux gens que c'est de meilleure qualité. Et ça a servi le film, ça c'est une certitude, mais la question qui se pose c'est est-ce que justement il mérite d'avoir un Oscar du meilleur interprète masculin parce que ben, justement ça pose une question assez éthique. Et donc je pose ça sur le tapis tout simplement parce que moi la réflexion que je vais vous emmener c'est est-ce que au final quand les fonds verts sont arrivés, la CGI, etc. Voilà, est-ce qu'on s'est posé les mêmes questions? Est-ce qu'un film à effet visuel au final peut remporter aussi un Oscar? Là je vais vous dire oui. Mais du coup, avec l'intelligence artificielle qui arrive, on voit des nouvelles choses qui bousculent les codes. Et est-ce que ça va être accepté par la suite? Voilà.
Merci. Je ne sais pas si vous voulez réagir.
Non, ça serait trop long.
Ok, ce sera trop long. En tout cas, je me pose la question, est-ce que la version française est aussi améliorée par le côté hongrois de...
Bonne question. Terminement. Je l'ai vu en VO, donc je ne peux pas vous dire.
En tout cas, il est à voir. Il sera à voir à partir de mercredi au Vence et à Priva aussi, et peut-être, enfin, on l'espère, programmé sur Aubenas.
Voilà.
Merci beaucoup,
merci
Alexis, de nous
merci
avoir
beaucoup.
Parlé de The Brutalist. On parlait de construction avec l'architecte visionnaire Laszlo Toth. Et bien, on continue avec un autre film, peut-être un peu plus doux.
Tout le temps, on me parle de toi. Ah ben, il a tapé, ben, il a tapé, ben, il a tapé. Mais non, parle avec les gens. Tu es intelligent comme garçon. T'es intelligent ou pas? Moi, je crois que oui, en tous les cas.
La moitié de 26, Jean-Baptiste.
13.
Excellent, très bien.
Il n'ose pas jouer avec toi, il lève le doigt. La majorité a dit que tu joues pas, donc tu joues pas.
On va lever la main, les uns après les autres, et on s'écoute.
Moi, parfois, j'ai pas confiance en moi.
Qu'est-ce que tu fais, toi, pour avoir confiance en toi?
Je me dis, c'est pas grave si je rate.
Par
je t'encourage.
On peut s'encourager.
Apprendre de Claire Simon après Les Bureaux de Dieu, Gare du Nord ou encore le très récent Notre Corps. Tu es allé voir Apprendre, toi, l'enseignant.
Oui, oui, effectivement. Oui. Et puis j'y ai rencontré deux collègues instituteurs spécialisés, psychologues scolaires, donc ils connaissaient bien le sujet. Claire Simon, moi je l'avais pour la première fois, enfin j'avais pour la première fois vu son travail pour son documentaire sur le bois de Vincennes, qui était vraiment magnifique. Donc j'attendais beaucoup de ce documentaire. Il est, la première chose qu'on peut dire de ce documentaire, c'est qu'il est à tout point de vue assez minimaliste. Au niveau de la production-réalisation, il est assez minimaliste dans la mesure où elle est là avec sa caméra et alors une ou un preneur de son, un ou une ingénieur de son. J'ai les deux infos, donc soit Nathalie Vidal, soit Pierre Bompi. Ce serait plutôt Pierre Bompi qui s'occupait du son. Donc on est vraiment dans un dispositif très, très léger et on débarque dans une école d'Ivry-sur-Seine pour voir comment on apprend. C'est apprendre. Hein. Comment apprend-on ? Claire Simon dit d'ailleurs qu'elle a choisi ce titre parce que apprendre, hein, s'entend dans les deux sens. Je t'apprends quelque chose ou j'apprends quelque chose. Voilà. Et donc, voilà. Alors effectivement, alors minimaliste dans le dispositif, je dirais aussi minimaliste dans l'objet, dans la mesure où on n'a pas de retour, par exemple, sur les actes pédagogiques qui sont posés. On a des séquences pédagogiques qui sont saisies de manière très très partielle, pour ne pas dire partiale, dans différentes disciplines, mathématiques, grammaire, arts plastiques, etc. C'est à chaque fois très très court. Si bien que ça me faisait penser à Philippe Mérieux. Je suis pas un fan de Philippe Mérieux, mais c'est juste pour dire qu'en 99, il avait publié un livre assez populaire, Apprendre, oui, mais comment. En sortant du documentaire de Claire Simon, on comprend pas du tout mieux comment on apprend, en fait, à cause de, je dirais, la légèreté de son objet, qui est quand même très, très réduit. Le montage est très peu inspiré.
Mais le film s'appelle « Apprendre, pas comprendre ».
Oui, d'accord. Mais alors, je veux bien qu'on ait un parti pris, effectivement, de regard innocent sur les faits. Le problème, c'est que ce regard innocent sur les faits, il a aussi ses limites. C'est-à-dire qu'effectivement, certes, on ne comprend pas, mais on ne nous raconte pas non plus vraiment. Et alors, c'est d'ailleurs, elle le dit, Claire Simon a dit que c'était son premier film sans structure narrative préétablie. Donc elle démarque là-dedans sans aucune structure, même narrative, donc on n'est même pas dans le comprendre, on est simplement dans le raconter. Et alors là, on atteint effectivement une certaine limite pour l'intelligence humaine. Hein, si, qu'on ne nous explique pas, je veux bien, mais qu'on ne nous dise même pas vraiment ce qui se passe, c'est plus embêtant. Donc elle avait pensé réaliser ce documentaire d'abord à Montrouge, du côté de Porte d'Orléans, à l'extérieur de Paris. Et la directrice de cette école était d'ailleurs passionnée de cinéma, ça l'a branché bien, voilà. Et Claire Simon a préféré se déplacer sur Ivry pour filmer la mixité. En fait, de mixité, elle filme plutôt la migration, parce qu'on a pratiquement que des migrants de deuxième, troisième, quatrième génération. Donc, la mixité, je sais pas bien. Elle dit qu'elle filme l'école dans la cité. Pour ce faire, elle ne nous montre guère qu'une ou deux sorties de classe et puis un carnaval en ville, qui se ramène finalement à une longue file d'élèves vaguement déguisés avec quelques accompagnateurs. Bon, et puis alors il y a la fameuse visite de l'école alsacienne pour faire ensemble de la musique, mais on ne nous raconte pas les choses. Il n'y a aucun recul et aucune réflexion sur ce que finalement ça donne. Résultat des courses, soit comme spectateur, on a l'impression comme ça de surfer sur l'objet, ou alors, c'est la disposition que j'ai adoptée dès le départ, parce que j'ai senti dès le départ que ça allait être ça, donc très très loin de mon expérience de pédagogue, j'ai décidé de prendre une posture contemplative. Parce que voir des enfants apprendre, voir des adultes enseigner, voir la relation, même de manière très pointilliste, très ponctuelle, voir une telle relation s'établir entre deux êtres humains, en soi, c'est à voir. Hein. Mais donc, je crois qu'il faut vraiment que le spectateur prenne ce parti pris de contemplation et ne cherche rien d'autre, parce que si le spectateur cherche quelque chose d'autre, il y a un effet déceptif, comme ça, un effet de déception qui fait sortir du film. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc, voilà mon. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas le voir. Je suis en train de dire qu'il faut aller le voir dans un certain esprit de gratuité. Comme tu disais, apprendre, ce n'est pas comprendre. Il faut arriver dans un esprit de complète gratuité, je crois.
Okay.
Ce qu'on n'avait pas dans le documentaire sur le Bois de Vincennes, où on comprenait des tas de choses. Pour moi, le Bois de Vincennes, c'était un moment du marathon de Paris, plus quelques balades parisiennes, voilà. Et là, tout à coup, on se rendait compte que c'était un univers, le parc de Vincennes. Donc, il y avait vraiment quelque chose.
Apprendre de Claire Simon. Donc, c'est à voir au Navire et au Benin. Et la dernière séance, c'est cette semaine. Donc, allez-y si vous êtes intéressé. Il sera par ailleurs Auteuil. On continue dans l'apprentissage d'un autre genre.
Chaque fois que je reviens ici, j'ai l'impression d'être en 1950. Avec votre mentalité de merde, là.
Bon, les gars, il reste une course, hein. Allez, hein.
T'inquiète.
Faut rien lâcher.
On va s'entraîner.
Maintenant, c'est tous les jours à la Pampa. Accélère!
T'as vu comme il est fier de toi, ton père?
Accélère!
Tu fermes ta gueule, t'as rien vu, ok?
Si mon père tombe dessus, je suis mort.
La Pampa de Antoine Chevrollier. Un film que tu es allé voir, René.
Oui, je suis allé voir La Pampa. Alors, le titre, c'est uniquement le nom du lieu où il s'entraîne, où il se prépare à faire des compétitions de motocross. Voilà, alors Willy et Jojo, voilà, les deux protagonistes, deux ados inséparables qui passent leur temps à chasser l'ennui dans un petit village ou une petite ville au cœur de la France. Je pense que le film a été tourné dans les alentours de Saumur. Et ils se sont fait une promesse. Ils partiront bientôt pour la ville, pour échapper au milieu à l'atmosphère confinée de ce village. Mais Jojo cache un secret, et quand tout le village le découvre, les rêves et les familles des deux amis vont voler en éclats. Alors évidemment, je ne vous révélerai pas ce secret. C'est un film qui est parcouru par toute une série de thèmes, celui de la virilité. Les protagonistes sont des fans de motocross, et pas seulement les jeunes. Les parents sont également partie prenante. On est dans un village ou une petite ville, je l'ai dit, et les hommes se doivent d'être de vrais hommes. Le courage, la prise de risque, le fait de ne pas avoir peur sont de mise. Ce film est entre autres un récit sur la masculinité poussée jusqu'à l'homophobie. C'est la première dimension de ce film. On a aussi le thème de l'amitié. Il y a quelque chose de fusionnel qui lie les deux personnages principaux, Willy et Jojo. Et ça, c'est très réussi, c'est très, très émouvant. Il y a aussi le passage à l'âge adulte que le film met très bien en scène. Mais au-delà de tout ça, ce que moi j'ai aimé dans ce film, c'est d'abord la maîtrise formelle. Je trouve qu'il y a un travail très sensible sur la couleur, sur le cadrage, qui souligne bien l'enfermement de ces jeunes et le poids que font peser sur eux leurs parents. Je pense en particulier au père de Jojo qui l'entraîne, qui le prépare à ses courses de motocross. Et il est d'une brutalité vis-à-vis de son fils qui montre qu'en fait, il règle ses propres comptes quelque part. Vraisemblablement, c'est le fait, lui, de ne pas avoir été capable de faire ça. Il veut que son fils réussisse à sa place quelque part.
C'est Damien Bonnard,
voilà.
Le père.
Voilà. Alors, j'aimerais justement, à propos de cet acteur, une petite digression sur le rôle du maquillage chez les acteurs. On n'en parle jamais de ça. Mais je suis allé voir des photos de Bonnard, il a un regard assez dur, mais dans la tête, ils lui ont fait une tranche de brute épaisse. C'est très... On regarde ça. Il y a eu un travail formidable. C'est intéressant de plastiquement. Il ne faut pas oublier quand même que le cinéma, c'est des images, quoi. Et voilà, il y a ça. Alors, je voudrais aussi dire un mot sur la musique de ce film, qui est simple et très efficace, notamment quand la tension dramatique s'accentue. Les scènes de course de moto, de motocross sont très convaincantes, très bien filmées. On aime ça ou on n'aime pas, mais il faut reconnaître que c'est très bien fait. Le choix des décors est aussi très réussi et très important. Les deux ados se retrouvent très souvent dans une maison abandonnée, et cette maison délabrée souligne bien la dureté de ce qu'ils vivent. Ils sont dans une espèce de no man's land. Ils ont du mal à vivre dans ce village où ils ne trouvent pas leur place. Mais de cette façon, le père veut à tout prix faire de son fils ce qu'il n'est pas. Et pour l'autre personnage, je vais y venir, il se sent mal dans ce village. Voilà. J'ai aussi beaucoup apprécié le fait que ce film ne sombre pas dans ce type de récit ouais. qu'on a vu et revu sur le mal de vivre des adolescents d'aujourd'hui. C'est pas ça. Le film, il nous épargne ça. Les problèmes que doivent affronter ces jeunes sont beaucoup plus tangibles. Ils ont de vrais problèmes. Et ça, c'est une des forces du film. Mais pour finir, ce que moi, j'ai surtout aimé, avant tout, dans ce film, et au-delà des thèmes que je viens d'évoquer, c'est le fait que c'est un film sur le deuil. Le personnage principal, Willy, qu'on suit pas à pas tout au long du film, est comme frappé de mutisme. Il parle très peu, et quasi exclusivement à son ami intime, Jojo, qui est un autre lui-même. Il n'arrive pas à exprimer de sentiments. Il y a par exemple une scène récurrente avec sa jeune sœur, qui visiblement, elle adore son frère, elle veut être proche de lui. Il est incapable, sauf à un moment, mais je ne dirai rien là-dessus, il est incapable de lui témoigner la moindre affection. Il n'a d'intérêt pour rien, il n'a d'intérêt pour quoi que ce soit. Et par exemple, il y a une fille qui, elle, visiblement s'intéresse à lui, il la voit, il la revoit quelquefois, ça ne donne rien. Il n'est pas capable de franchir le pas, d'aller plus loin. Et on découvre petit à petit que cette sorte d'aphasie, ce mutisme, est lié à la mort de son père. Il n'arrive pas à se remettre de cette mort, il n'arrive pas à en faire le deuil. Et ça, je trouve que c'est surtout en cela que le film est à la fois sensible, profond et abouti. C'est ce qui fait l'intérêt du film. Tout le reste est un peu anecdotique. À part la mise en formellement, si, ça c'est important parce que la plupart des films sont d'une grande banalité formelle. Celui-là a une vraie originalité formelle qu'il faut souligner. Mais je répète et j'insiste, c'est surtout ce jeune qui n'arrive pas à vivre le deuil de la mort de son père, qui m'a beaucoup plu. Alors, toute cette profondeur du film est d'autant plus remarquable que c'est le premier long métrage d'Antoine Chevrolier, metteur en scène et co-scénariste du film, qui, jusqu'à présent, travaillait pour le petit écran. Voilà. Mmh. Voilà ce que j'avais à dire sur ce film qui m'a ému, encore une fois, du point de vue, grâce à ce point de vue porté sur le deuil, qui est quelque chose qui est très difficile à mettre en scène, puisque le deuil, justement, c'est quelque chose d'intérieur. Or, le cinéma a le rôle d'extérioriser l'intérieur, et c'est pas. Et là, je trouve que c'est bien fait.
Mmh. Merci beaucoup. La Pampa, qui est à voir au Navire, à Aubenas et à Rions, c'est. Bon, je généralise peut-être, mais j'ai l'impression, en tout cas ici, qu'il y a de plus en plus de films par de jeunes réalisateurs, réalisatrices, peut-être même des premiers films qui parlent
de ça
et notamment, enfin, je pensais à Vin Dieu aussi, notamment dans un autre. Alors oui, complètement différent, mais c'est un premier
feu,
film.
Nos enfants après nous, etc.
Exactement. Ouais.
Oui, effectivement. C'est d'ailleurs, on en avait parlé hors antenne avec René. J'avais quelques réticences à aller voir ce film parce que j'avais l'impression que j'allais voir un nouvel exemplaire de ces films dont tu parles, Sophie. Et il s'avère, vu ce que René a dit, que c'était un peu mieux que ça.
Oui.
Enfin, que voilà.
Oui. Sans être exceptionnel, c'est mieux que ça.
Oui. Ouais, ouais.
On ira donc. Et alors, allons-nous aller voir l'autre film, le dernier, Dis-moi juste que tu m'aimes.
Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde.
Mais ce type, là, c'est pas un peu ton supérieur hiérarchique ? Il est incroyablement attentionné. T'es amoureuse ? Mais non.
À mon hôtel, j'ai pris les mêmes chambres que la dernière fois.
Ah mais Thomas, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais là ?
J'étais curieux de te voir en famille, c'est tout.
Thomas, s'il te plaît, ne fais pas ça.
un extrait. Alors j'ai taillé dans le vif, au milieu, au cœur de la bande-annonce, et j'ai trouvé cet extrait assez intéressant, mais je ne sais pas s'il révèle un petit peu le film. Bien. On vient d'entendre José Garcia et Élodie Bouchez, donc dans ce film d'Anne Leny, « Dis-moi juste que tu m'aimes », Olivier, que tu es allé voir.
Oui, oui, j'y suis allé, j'étais pas enthousiaste non plus. J'ai toujours été fasciné par le livre de Goethe, « Les affinités électives ». C'est l'histoire de deux couples qui sont amis depuis longtemps, qui se réunissent pour un séjour de distraction, de vacances, dans une grande maison. Et je vais passer les détails, mais il s'avère progressivement qu'il va y avoir un phénomène d'échange, c'est-à-dire que les couples vont se séparer et se reformer, mais pas selon le même schéma. Voilà. Oui, c'est affinité élective d'ailleurs est un terme qui est employé, emprunté par Goethe à la chimie. Pour ceux qui connaissent, c'est la fameuse réaction acide-base où un acide se sépare en deux, une base se sépare en deux et donne un sel et de l'eau. Hein, c'est-à-dire que ça se recompose. Et je me suis dit, bon, on va assister, mais évidemment, ça va être raté comparé à Goethe. Quoi. Bon, alors.
Comme dans le premier film, voilà. Il faut revoir ses attentes à la baisse.
Non, c'est pas
Sois
ça.
Sois contemplatif quand tu vas au cinéma, accueille ce qui peut se passer.
Et ben justement, donc j'y suis allé et je commençais à être confirmé. Donc, c'est quoi l'histoire? Un couple, Omar Sy et Elodie Bouchez, deux enfants, vivent une vie tranquille. Ils ont réussi à acheter une maison, ils la remboursent, voilà, voilà, une chose. Et puis, dans ce système planétaire, hein, constitué de ce couple et de ces deux filles, interviennent deux exoplanètes, si je puis dire. Vanessa Paradis, qui revient à Vannes 20 ans après. Il se trouve que c'était l'amour de jeunesse du mari, Omar Sy, donc. Et au même moment, l'entreprise où travaille Élodie Bouchez reçoit un audit d'un supérieur hiérarchique, très supérieur et très hiérarchique, si vous voulez. Et il intervient donc dans la vie du couple aussi, parce qu'il audite Élodie Bouchez. Alors, il se passe la chose suivante, c'est qu'effectivement se pose la question des rapports qui peuvent se renouveler entre les deux anciens amoureux, Omar Sy et Vanessa Paradis, du coup. Et puis, qu'est-ce qui va se passer entre l'auditeur, enfin l'audit, plutôt, l'audit joué par José Garcia, Thomas, et Élodie Bouchez, qui, voilà. Et donc, il se passe ce qui se passe, peu importe. Moi, ce qui m'a quand même frappé, ça rejoint un petit peu ce qu'André dit, ce que René disait sur la Pampa, à savoir que ça sort quand même de toute une série de films assez peu crédibles, d'examens psychologiques, de situations un peu artificielles, etc. Non, on sort largement de ça et on s'approche un petit peu de Goethe justement parce que il y a un vrai creusement de la psyché des personnages qu'on découvre, évidemment, beaucoup plus complexe qu'ils ne s'estimaient eux-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trouvé que revenir sur la personnalité, la carrière de la réalisatrice Anne Leny permettait peut-être de comprendre que la magie, comme ça, un peu créatrice, ait pu opérer. Anne Leny, on l'a vu dans Le goût des autres. Elle joue Valérie, l'habilleuse, qui est l'amie de personnages principaux, dont Anne Alvaro. On la retrouve dans Intouchable. Elle joue la gouvernante dans la maison de l'homme paralysé. On la retrouve plus récemment dans Un ours dans le Jura, où elle joue un commissaire. Donc à chaque fois, elle a une espèce de second rôle, voire on se dit, presque tenté de dire de troisième rôle. Et c'est assez étonnant de voir comment dans ces rôles, entre guillemets, subalternes, elle assure, elle fait le travail, ce qui permet au film de ne pas être en quelque sorte troué ou rendu lacunaire par une incapacité à tenir le rôle qui quand même doit être tenu, même si il est en apparence accessoire. Et donc, et Omar Sy d'ailleurs en témoigne, hein, dans la presse on peut voir Omar Sy dire, rappeler que quand il a joué au Intouchable, il était débutant, et que Anne Leny l'avait beaucoup aidé à tenir son rôle, parce qu'il faut quand même pas oublier qu'Omar Sy, il vient de la télé, des grosses vannes, Omar et Fred, enfin, etc. Bon, c'était quand même pas joué le passage dans un grand film comme Intouchable, quoi. Et il témoigne, Omar Sy, de ce que Anne Leny l'avait aidé quelque part à devenir acteur. Et donc, je pense que là, avec son casting assez extraordinaire, hein, José Garcia, Vanessa Paradis, Élodie Bouchèze, Omar Sy, donc je viens d'en parler, sont vraiment très très intéressant. Mention peut-être spéciale pour Élodie Bouchèze qui tient son personnage perturbé, scindé comme ça, de manière extraordinairement crédible, si bien que ce film, comment dirais-je, ben marque et donne à réfléchir justement sur la nature des sentiments qui nous animent réellement, hein. Au-delà ou en deçà, je ne sais pas bien, de la surface, voilà, de la surface. Donc, un film qui m'a mérite, plutôt... Donc, il ne nécessite pas de prendre une position de recul contemplative pour être supporté, hein. Non, on peut rentrer dedans et se régaler.
C'est pas un simple marivaudage.
Ah non, c'est ça, c'est... Voilà, je craignais un peu ça, il me semble, bon après... Bon, on en a parlé hors antenne avec des personnes qui m'ont confirmé dans mon analyse. Hein. Donc, je ne suis pas tout seul. Donc, je crois que c'est assez vrai que ce film est intéressant et nourrit la réflexion.
Alors, c'est à aller voir au navire, à Aubenas. Bientôt, il sera à Privas. Dis-moi juste que tu m'aimes. Très joli titre avec oui, Anne Leny. Voilà, on se dirige vers la fin de cette émission. Deux films à l'agenda. Il y a un ciné-débat, Les Oubliés de la Belle Étoile, avec la réalisatrice qui sera présente, Clémence Davigo. C'est un documentaire l'enfance passée dans un centre de redressement en Savoie dans les années 50.
Et quel centre de redressement ?
Il y aura un débat aussi avec Ardèche Images. Tu voulais ajouter quelque chose ?
Oui, je voulais ajouter que La Chambre d'à côté, le dernier film de Pedro Almodovar, passait à l'USAS ce soir à 20h30. René et moi l'avons vu et je crois qu'on peut le conseiller.
Ah oui, sans hésiter. Ouais.
Et pour terminer, on était tout à l'heure avec Alexis, on ne lui a pas laissé le temps de parler du festival qui va débuter, un nouveau festival au Vence qui s'appelle Terre et Racines. Ça va débuter mercredi 26 février et ça va s'étendre jusqu'au 29 mars, un mois. C'est très très ambitieux, il y a énormément d'associations partenaires qui sont conviées et c'est un festival qui est dédié aux enjeux environnementaux et aux cultures du monde. Je pense que les Vence, c'est absolument l'endroit où il fallait lancer ce festival. Mais on en reparlera la semaine prochaine puisque ils seront nos invités dans une onde curieuse, voilà. Merci beaucoup à tous les deux, Olivier et René, et puis merci à Alexis aussi de nous avoir parlé des films, et merci Sylvain pour la réalisation de cette émission. N'oubliez pas, ce soir, 18h, la bobine pour l'AG de Fréquence 7. Ciao.
Ciao, ciao.
Voilà, Paris, ça. Oui, ça va. Alors, la caméra passe. What is this, Connery?